Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un chef d'État, d'un personnage à la stature impressionnante, je veux dire Georges Clemenceau. Petit détail au passage, Clemenceau s'écrit sans accent sur le E. Alors, Georges Clemenceau est né en plein Bocage vendéen le 28 septembre 1841. Il est issu d'une longue lignée de médecins. Il est né dans la ferme familiale, sa mère est issue d'une famille protestante, alors que son père est un athée, non seulement convaincu, mais militant, leurs enfants ne seront pas baptisés. Dans sa ferme natale, devenu depuis le musée Clemenceau, Georges Clemenceau est enterré aux côtés de son père. Alors, le petit Georges est un bon élève. Il a une bonne mémoire, il apprend le latin, le grec, et son père l'imprègne d'idées républicaines. Son père, Benjamin, a participé à la révolution de 1830, à celle de 1842. Il a été arrêté après le coup d'État du 2 décembre 1851, qui a porté au pouvoir Napoléon II. Puis, en 1857, après l'attentat d'Orsini, c'est un républicain et c'est un anticlérical féroce. Ben, le petit Georges, lui, continue et il fait des études de médecine. Il fonde un journal, Le Travail. Il est emprisonné, d'ailleurs, pour certains écrits. Il est très lié avec un révolutionnaire qui s'appelle Blanqui. En 1865, il a 24 ans, il devient docteur en médecine. Et ce sera son premier surnom, il en aura plusieurs, on aura l'occasion d'en reparler. Pour beaucoup, il va devenir Divan le Terrible. Mais en attendant, le jeune médecin s'envole pour New York. Il commence par enseigner dans un collège de jeunes filles. Il enseigne le français et l'équitation. Georges Clemenceau a toujours été un cavalier enthousiaste. Et puis, bon, ce qui devait arriver arriva. Il se marie avec une de ses élèves en 1869. C'est extraordinaire parce que les deux jeunes gens se marient, mais ils ne passent pas par l'église. Dans l'Amérique de l'époque, on peut imaginer le scandale que ça a provoqué. Et le jeune couple revient en Europe, plutôt, lui revient en Europe et sa épouse l'accompagne. Ils auront une fille, Madeleine, en 70. Et surtout, Georges Clemenceau est devenu ce qu'on peut appeler américanophile. Il est enthousiasmé par ce qu'il a découvert aux États-Unis. Il va être, en 1870, au moment de la guerre contre la Prusse, il va être maire provisoire du 18e arrondissement. Il aura beaucoup d'admiration pour une révolutionnaire emblématique, Louise Michel. Il va bénéficier de l'amnistie en janvier 71. Il va participer à la Commune de Paris en mars 71, il sera destitué. Et il va poursuivre sa carrière du côté politique. Et en 1876, il devient député de Paris. Je vous propose une pause musicale.
Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous saurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Alors, en tant que député, il va soutenir les lois qui correspondent à ses idées. Il va approuver bruyamment la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Il va lutter pour une instruction gratuite et laïque pour tous. Il va lutter également, et à l'époque, c'était assez inattendu, il va lutter pour la suppression de la peine de mort. Il va lutter aussi pour que les communards soient amnistiés. En 1880, d'ailleurs, les derniers condamnés de la Commune sont amnistiés. Il va fonder un journal et il va acquérir un nouveau surnom. Il va devenir le tombeur de ministère. Son éloquence, sa façon d'entraîner ses collègues députés font qu'il fait tomber Jules Ferry. Il fait, à plusieurs reprises d'ailleurs. Et en 1885, il va devenir député du Var. Il y a peut-être une erreur dans son parcours. Il va soutenir un moment le général Boulanger. Le général Boulanger qui va se suicider en 1891, et dont Clémenceau se séparera assez vite. Il va soutenir la grève de fourmis dans le Nord. Il va être plus ou moins compromis dans le scandale de Panama. Mais l'affaire qui, à l'époque, secoue tout le monde, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui éclate le 22 décembre 1894. Mais je vous propose une pause musicale. Au début, Clémenceau ne prend pas parti dans l'affaire Dreyfus. Et puis, il réalise que cette affaire va beaucoup plus loin qu'il y paraît. Et dès lors, dès 1897, il prend parti pour la révision du procès pour l'annulation de la condamnation infecte du capitaine Dreyfus. Et il fait ça avant que Zola n'écrive son « J'accuse ». Enfin, en 1899, le 3 juin 1899, 5 ans après le verdict condamnant le capitaine Dreyfus est cassé. Mais, et on pourrait prendre des exemples plus récents, ceux qui l'ont condamné ne sont pas prêts à assurer leur erreur et Dreyfus ne sera réhabilité qu'en 1906. Clémenceau, lui, continue à voir venir les événements avec une sensibilité, une intelligence que n'ont pas toujours ses contemporains. C'est ainsi qu'il va défendre, les Arméniens contre le génocide perpétué par les Turcs. En 1902, il devient sénateur du Var. Et en 1905, il applaudit dès demain la séparation de l'Église et de l'État. Et enfin, le 13 mars 1906, il devient ministre de l'Intérieur. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez probablement vu ou entendu parler d'épisodes télévisés, d'un feuilleton télévisé qui s'appelait « Les Brigades du Tigre ». Ben, le Tigre, c'était tout simplement Clémenceau, du temps où il était ministre de l'Intérieur. Il avait instauré, créé ces brigades destinées à intervenir contre la criminalité. Donc les Brigades du Tigre, c'est la première fois qu'on utilisera ce surnom du Tigre. Ce ne sera pas la dernière. Le 25 mars, il devient président du Conseil. Il doit faire face à une vague de grève. Et il sera renversé en 1909. Il va acheter, à cette époque-là, une maison à Bernonville, près de Gisors, dans l'Eure. Pourquoi? Je précise cette anecdote. C'est parce que cette maison se trouve non loin de Giverny. Et à Giverny habite un des grands peintres de la fin du 19e, Claude Monet. Et les deux hommes, Georges Clémenceau et Claude Monet, vont être liés jusqu'au bout, jusqu'à la disparition du peintre, par une amitié qui ne se démentira jamais. Et nous arrivons à présent au début d'août 1914, lorsque la France déclare la guerre à l'Allemagne. Je vous propose une pause musicale.
La route est large, le clairon sonne la charge, les zouaves vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les guette, on les attend. Le clairon est un vieux brave, et lorsque la lutte est grave, c'est un rude compagnon. Il a pu maintes batailles et porte plus d'une entaille depuis les pieds jusqu'au front. C'est lui qui guide la fête, jamais sa pierre trompette eut un accent plus vainqueur. Et de son souffle de flamme, l'espérance vient à l'âme, le courage monte au cœur. On grimpe, on court, on arrive, et la fusillade est vive, et les autres sont à droit. Quand enfin ce cri se jette en marche à la baïonnette, et l'on entre sous le bois. À la première décharge, le clairon sonnant la charge tombe frappé sans recours. Mais par un effort suprême, menant le combat quand même, le clairon sonne toujours. Et cependant le sang coule, mais sa main qui le refoule suspend un instant la mort. Et de sa note affolée précipite en la mêlée, le vieux clairon sonne encore. Il est là couché sur l'herbe, dédaignant, blessé, superbe, tout espoir et tout secours. C'est sur sa lèvre sanglante, gardant sa trompette ardente, il sonne toujours. Puis dans la forêt pressée, voyant la charge lancée et les zouaves bondir, alors le clairon s'arrête, sa dernière tâche est faite, il achève de mourir.
Pendant la guerre, au début de la guerre avec l'Allemagne, Georges Clemenceau, qui est toujours sénateur, est président de la commission de l'armée au Sénat. Et il va, civil, être très proche des soldats combattants. On le voit très souvent dans les tranchées, parlant avec les combattants, s'inquiétant de leur sort. Et ce n'est pas pour rien que très vite, dès la fin de la guerre, on va commencer à l'appeler le père la victoire. Tout simplement parce que le 15 novembre 1917, il est nommé président du Conseil. Il a 76 ans. Il n'interrompt pas ses visites dans les tranchées. Et c'est lui qui, le 11 novembre 1918, va signer l'armistice. Et il aura dès lors, et jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ce surnom de Père la Victoire. D'autant plus que, à la suite de l'armistice, il participe activement aux négociations du traité de Versailles. On peut reprocher beaucoup de choses au traité de Versailles, mais enfin bon, il a existé et c'est lui qui a conditionné en partie la suite des événements. Et le père la victoire, comme désormais on l'appelle, revient inlassablement sur son lieu de travail. Bien sûr, il y aura un attentat dont il réchappe jusqu'à ce qu'il décide, de son plein gré, de se retirer de la vie politique. Je vous propose une pause musicale.
Le cas noir, planté par Aristide Brûlon. La lune était sereine, quand sur le boulevard, je vis poindre ce tête qui me dit, cher Oscar, d'où viens-tu, vieille branche? Moi je lui répondis, c'est aujourd'hui dimanche, et c'est de maladie. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon ordre. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon ordre le soir. La lune était moins claire lorsque je rencontrais mademoiselle Claire, à qui je murmurais, comment vas-tu la belle? Très bien, et vous merci. À propos, me dit-elle, que cherchez-vous ici? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon bar. Plus sombre, en haut les chats braillaient, quand j'aperçus dans l'ombre deux grands yeux qui brillaient, une voix de rogombe me cria, nom d'un chien, que vous y prends, jeune homme, que faites-vous, moi, rien. Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon bar. Était obscure quand on me transporta dans une préfecture où l'on me demanda, êtes-vous journaliste, peintre, sculpteur, rentier, poète ou pianiste, quel est votre métier? Je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à mon bord.
Désormais retiré de la vie politique, Clémenceau va en profiter pour beaucoup voyager. Il va aller au Caire, en Égypte, en Inde, aux États-Unis. Il va louer une maison au bord de l'océan pour pouvoir tranquillement contempler l'infini. Il ne faut pas oublier maintenant qu'il est retiré des événements publics, qu'on lui doit deux créations très importantes. D'une part, le musée Guimet, d'autre part, le musée de l'Orangerie. Musée de l'Orangerie où on peut aujourd'hui encore contempler les nymphéas de Claude Monet. Claude Monet qui sera resté jusqu'au bout, son très grand ami. Et il va mourir à Paris le 24 novembre 1929. Il sera enterré, comme je vous l'ai dit au début, il sera enterré dans leur maison familial aux côtés de son père. Mais je ne voudrais pas arrêter une émission sur Georges Clemenceau sans évoquer son caractère, on va dire, insupportable pour ses adversaires et réjouissant pour ceux qui pensent comme lui. Alors voici quelques phrases qu'il a prononcées à l'occasion de sa vie publique. Il existe deux organes inutiles, la prostate et la présidence de la République. Alors, il est bien évident que ces phrases écrites avant 1929, même si pour certains d'entre nous, elles ont des résonances très actuelles, on ne saurait y voir aucune allusion à l'actualité récente. Autre phrase. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Ou encore, un gouvernement est une assemblée de médiocres, d'ignares et de roublards, sans scrupules, nommés par un président de la République, lui-même médiocre et ignare. Toute ressemblance avec des personnages existants serait pure coïncidence. À propos de Philippe-Fort qu'il détestait, en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Il a eu la même attitude avec Raymond Poincaré. Le mesosaure ou serpent de la Meuse était une petite vive sèche, désagréable, un peu courageuse. Le mesosaure, il s'agit de Poincaré, n'aimait pas se battre. C'est sa prudence qui l'a conservé jusqu'à nous. Un animal assez déplaisant, comme vous voyez, dont heureusement on ne connaît plus qu'un exemplaire, le Poincaréus. Phrase à méditer actuellement. La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Petite réflexion au passage. On peut se demander s'il n'est pas dommage qu'on n'ait pas tenu compte à certains moments. La guerre est une chose trop grave pour être confiée à des militaires. Ou bien il n'y a pas plus plat qu'un général. Quand l'un d'eux vient me voir, je suis forcé de mettre mes mains dans mes poches pour qu'il ne les lèche pas. Alors bien sûr, on peut ne pas partager les idées de Georges Clemenceau, on peut ne pas être d'accord avec son anticléricalisme forcené, avec son athéisme militant, mais l'homme a joué un rôle considérable, notamment au moment de la Première Guerre mondiale. Il n'a pas hésité à rester proche des gens, de ceux qu'il avait élus et des autres. À ma connaissance, on n'a rien de répréhensible à lui reprocher. Et puis en même temps, quelque part, je trouve que humainement, Georges Clemenceau avait des qualités qui font qu'on ne peut pas l'ignorer. Et notamment, j'y reviens parce que c'est toujours actuel, son amitié avec Claude Monet a peut-être permis à ce dernier de connaître un succès, une publicité qui n'aurait pas connu autrement. Alors, s'il vous arrive d'aller au musée de l'Orangerie, vous y verrez forcément les nymphéas de Claude Monet. Mais peut-être qu'en regardant ce chef-d'œuvre du peintre impressionniste, quelque part dans votre mémoire va surgir un prénom et un nom, celui de Georges Clemenceau. Il méritait bien d'être ainsi, uni à jamais avec son ami le peintre. Et puis, quelque part, quel symbole, quelqu'un qui occupe les plus hautes fonctions politiques et qui s'intéresse à la peinture. Ça m'interpelle quelque part, peut-être en sera-t-il de même pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté.
L'avion surnommé le père la victoire. Devant son cabaret, nous l'écoutions parler. Or un jour qu'il voyait des pioupiou défiler, il nous dit tout joyeux en nous offrant à boire. Ami, je viens d'avoir 100 ans. Ma carrière est finie, mais mon cœur plein de vie bat toujours comme au jeune temps. Le printemps parfumé, le jeu, le vin, j'ai tout aimé. Le gai tintin, le glou-glou d'un flacon me mettait folie en tête. Et lorsque j'étais pompette, je me grisais d'une folle chanson. Mais le bruyant chanteur qui me faisait battre le cœur, plan, rataplan, rataplan, c'était ce bruit-là, mes enfants. Vous qui passez là-bas sous cette tonnelle, entrez boire. Ah, buvez, jeunes soldats, le vin du père, la victoire. Brillant vermeil, nectar sans pareil, il remplit le cœur de vaillance. Vin de l'espérance, buvez enfants le vin de mes 100 ans. J'ai soupiré pour Madelon, Jeannette et Marguerite, mon regard flambait vite. Dès que je voyais un jupon, un corsage fripon, ou bien un mollet fermé rond, ma lèvre aimait fort à se reposer sur un joli menton rose. C'est une bien douce chose que le son clair que produit un baiser. Pourtant, malgré cela, le seul bruit qui me pinçait là, blanc, rataplan, rataplan, c'était ce bruit-là, mes enfants. Certes, je fus aimé, bichonné par plus d'une belle. Oh, corsage parfumé, leur frissonnant sous la dentelle. On m'adorait, rien ne me résistait. Maintenant, adieu la conquête. C'est pour vous la fête, buvez enfants le vin de mes 100 ans.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Thank you.